La dame à la hache. L'un des événements les plus incompréhensibles de l'époque qui précéda la guerre fut certainement ce qu'on appela l'affaire de la dame à la hache. La solution n'en fut pas connue, et elle ne l'eût jamais été si les circonstances n'avaient pas, de la façon la plus cruelle, obligé le prince Rénine, devons-nous dire Arsène Lupin, à s'en occuper. Et si nous n'en pouvions donner aujourd'hui, d'après ses confidences, le récit authentique. Rappelons les faits. En l'espace de 18 mois, 5 femmes disparurent. 5 femmes de conditions diverses, âgées de 20 à 30 ans, habitant Paris ou la région parisienne. Voici leurs noms. Madame Ladoux, femme d'un docteur. Mademoiselle Ardan, fille d'un banquier. Mademoiselle Covereau, blanchisseuse à Courbevoie. Mademoiselle Honorine Vernissé, couturière, et Madame Groslinger, artiste peintre. Ces 5 femmes disparurent sans qu'il fût possible de recueillir un seul détail qui expliquât pourquoi elles sortirent de chez elles, pourquoi elles n'y rentrèrent pas, qui les attira dehors, où et comment elles furent retenues. 8 jours après leur départ, on retrouvait chacune d'elles en un endroit quelconque de la banlieue ouest de Paris. Et chaque fois, ce fut un cadavre qu'on retrouva. Le cadavre d'une femme frappée à la tête d'un coup de hache. Et chaque fois, près de cette femme attachée solidement, la figure inondée de sang, le corps amaigri par le manque de nourriture, des traces de roues prouvait que le cadavre avait été apporté là par une voiture. L'analogie des 5 crimes était telle qu'il n'y eut qu'une seule instruction, laquelle engloba les 5 enquêtes, et d'ailleurs n'aboutit à aucun résultat. Disparition d'une femme, découverte de son cadavre 8 jours après, exactement. Voilà tout. Les liens étaient identiques. Identiques aussi les marques laissées par les roues de la voiture. Identiques les coups de hache, tous donnés au haut du front, au plein milieu de la tête et verticalement. Le mobile. Les 5 femmes avaient été entièrement dépouillées de leurs bijoux, porte-monnaie et objets de valeur. Mais on pouvait aussi bien attribuer le vol à des maraudeurs et à des passants, puisque les cadavres gisaient dans des endroits déserts. Devait-on supposer l'exécution d'un plan de vengeance, ou bien d'un plan destiné à détruire une série d'individus reliés les uns aux autres, bénéficiaires par exemple d'un héritage futur? Là encore, même obscurité. On bâtissait des hypothèses que démentait sur le champ l'examen des faits. On suivait des pistes aussitôt abandonnées. Et brusquement, un coup de théâtre. Une balayeuse des rues ramassa sur un trottoir un petit carnet qu'elle remit au commissariat voisin. Toutes les feuilles de ce petit carnet étaient blanches, sauf une, où il y avait la liste des femmes assassinées, liste établie selon l'ordre chronologique et dont les noms étaient accompagnés de 3 chiffres. Ladoux, 132, Vernissé, 118, etc. On n'aurait certes attaché aucune importance à ces lignes que le premier venu avait pu écrire, puisque tout le monde connaissait la liste funèbre. Mais au lieu de 5 noms, voilà qu'elle en comportait 6. Oui, au-dessous du mot Groslinger, 128, on lisait Williamson, 114. Se trouvait-on en présence d'un 6e assassinat? La provenance évidemment anglaise du nom restreignait le champ des investigations, qui, de fait, furent rapides. On établit que, 15 jours auparavant, une demoiselle Herbert Williamson, nurse dans une famille d'Auteuil, avait quitté sa place pour retourner en Angleterre, et que, depuis ce temps, ses sœurs, bien qu'averti par lettre de sa prochaine arrivée, n'avait pas entendu parler d'elle. Nouvelle enquête. Un agent des postes retrouva le cadavre dans les bois de Meudon. Miss Williamson avait le crâne fendu par le milieu. Inutile de rappeler l'émotion du public à ce moment, et quel frisson d'horreur à la lecture de cette liste, écrite sans aucun doute de la main même du meurtrier, secoua les foules. Quoi de plus épouvantable qu'une telle comptabilité, tenue à jour comme le livre d'un bon commerçant? À telle date, j'ai tué celle-ci, à telle autre celle-là. Et comme résultat de l'addition, 6 cadavres. Contre toute attente, les experts et les graphologues n'eurent aucun mal à s'accorder et déclarèrent unanimement que l'écriture était celle d'une femme cultivée, ayant des goûts artistes, de l'imagination et une extrême sensibilité. La dame à la hache, ainsi que les journaux la désignèrent, n'était décidément pas la première venue. Et des milliers d'articles étudièrent son cas, exposèrent sa psychologie et se perdirent en explications baroques. La dame à la hache, c'est cependant l'auteur d'un de ses articles, un jeune journaliste que sa trouvaille tira de pair, qui apporta le seul élément de vérité et jeta dans ses ténèbres la seule lueur qui devait les traverser. En cherchant à donner un sens aux chiffres placés à la droite des six noms, il avait été conduit à se demander si ces chiffres ne représentaient pas tout simplement le nombre de jours qui séparaient les crimes les uns des autres. Il suffisait de vérifier les dates. Tout de suite, il avait constaté l'exactitude et la justesse de son hypothèse. L'enlèvement de Mademoiselle Vernisset avait eu lieu 132 jours après celui de Madame Ladoux. Celui d'Hermine Covereau, 118 jours après celui de Mademoiselle Vernisset, etc. Donc, aucune hésitation possible. Et la justice ne put qu'enregistrer une solution qui s'adaptait si exactement aux circonstances. Les chiffres correspondaient aux intervalles. La comptabilité de la dame à la hache n'offrait aucune défaillance. Mais alors, une remarque s'imposait. Miss Williamson, la dernière victime ayant été enlevée le 26 juin précédent, et son nom étant accompagné du chiffre 114, ne devait-on pas admettre qu'une autre agression se produirait 114 jours après, c'est-à-dire le 18 octobre? Ne devait-on pas croire que l'horrible besogne se répéterait selon la volonté secrète de l'assassin? Ne devait-on pas aller jusqu'au bout de l'argumentation qui attribuait aux chiffres, à tous les chiffres, aux derniers comme aux autres, leur valeur de dates éventuelles? Or, précisément, cette polémique se poursuivait et se discutait durant les jours qui précédèrent ce 18 octobre, où la logique voulait que s'accomplît un nouvel acte du drame abominable. Et c'est pourquoi il était naturel que le matin de ce jour-là, le prince Rénine et Hortense, en prenant rendez-vous par téléphone pour le soir, fissent allusion aux journaux que chacun d'eux venait de lire. « Attention !» dit Rénine en riant. « Si vous rencontrez la dame à la hache, prenez l'autre trottoir.
Et si cette bonne dame m'enlève, que faire ?
Semez votre chemin de petits cailloux blancs. » Et répétez jusqu'à la seconde même où luira l'éclair de la hache, « Je n'ai rien à craindre, il me délivrera. »
Il, c'est moi, et je vous baise les mains. À ce soir, cher ami. »
L'après-midi, Rénine s'occupa de ses affaires. De 4 à 7, il acheta les différentes éditions des journaux. Aucune d'elles ne parlait d'enlèvement. À 9h, il alla au gymnase où il avait retenu une baignoire. À 9h30, Hortense n'étant pas arrivée, il téléphona chez elle, sans arrière-pensée d'inquiétude d'ailleurs. La femme de chambre répondit que madame n'était pas encore rentrée. Saisie d'un effroi soudain, Rénine courut à l'appartement meublé qu'Hortense occupait provisoirement près du parc Monceau, et il interrogea la femme de chambre qu'il avait placée près d'elle et qui lui était toute dévouée. Cette femme raconta que sa maîtresse était sortie à 2 heures, une lettre timbrée à la main, en disant qu'elle allait à la poste et qu'elle rentrerait pour s'habiller. Depuis, aucune nouvelle. Mais cette lettre était adressée à qui ?
À un monsieur, j'ai vu la suscription « Prince Rénine ».
Il attendit jusqu'à minuit. Vainement. Hortense ne revint pas. Et elle ne revint pas non plus le lendemain.
Pas un mot là-dessus, ordonna Rénine à la femme de chambre. Vous direz que votre maîtresse est à la campagne et que vous allez la rejoindre.
Pour lui, il ne doutait pas. La disparition d'Hortense s'expliquait par la date même du 18 octobre. Hortense était la 7e victime de la dame à la hache. L'enlèvement précède le coup de hache de 8 jours. J'ai donc, à l'heure actuelle, 7 jours pleins devant moi. Mettons 6, pour éviter toute surprise. Nous sommes aujourd'hui un samedi. Il faut que vendredi prochain, à midi, Hortense soit libre. Et pour cela que je connaisse sa retraite. Au plus tard, jeudi soir 9h. Rénine inscrivit en gros caractères « Jeudi soir 9h » sur une pancarte qu'il cloua au-dessus de la cheminée de son cabinet de travail. Puis, le samedi à midi, lendemain de la disparition, il s'enferma dans cette pièce après avoir donné l'ordre à son domestique de ne le déranger qu'aux heures des repas ou des courriers. Il resta là 4 jours, sans bouger presque. Tout de suite, il avait fait venir une collection de tous les journaux importants qui avaient parlé avec détail des 6 premiers crimes. Quand il les eut lus et relus, il ferma les volets et les rideaux et, sans lumière, le verrou tiré, étendu sur un divan, il réfléchit.